Radio Foot International.
Éric Mamrut.
Bonjour, bonjour tout le monde. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Radio Foot International. En l'absence de Manabani, qui goûte cette semaine à des vacances bien méritées, on va essayer de tenir la boutique au mieux. En compagnie de nos trois invités du jour que je vous présente, ils sont déjà très chauds, très bouillants. Il connaît la Bundesliga comme sa poche, notre professeur d'allemand, monsieur David Lortolari. Bonjour.
Guten Abend, bonsoir Eric, bonsoir à tous.
J'allais le dire, presque boule de muscle, les phrases choc. C'est notre gentil pitbull de Picardie, Naïm Moniol, comment ça
c'est
va?
C'est mignon, ça va Eric?
Ma biche, sage, tranquille. Quant à notre troisième consultant, il est l'héritier footballistique de Bob Marley, mais si ça existe, je ne sais pas, une vraie encyclopédie du football, monsieur Sherif Gemour. Comment ça va,
Sherif? Ich spreche Deutsch. Guten Abend.
Je suis impressionné.
Bonsoir, en allemand.
Je ne pourrais pas faire aussi bien que vous. Alors avec vous, en allemand, en français, en espagnol, dans toutes les langues, aujourd'hui, on va débattre des sujets suivants. Le Bayern Munich a fait le break ce week-end en tête du championnat d'Allemagne. Son dauphin, le Bayer Leverkusen, a lâché de nouveaux points lors d'une 30e journée peut-être décisive dans la course au titre. Pendant ce temps-là, le Borussia Dortmund poursuit sa remontada au classement avec son nouveau coach Niko Kovac et un Serhou Guirassy de retour au premier plan. La qualification pour la Ligue des Champions redevient possible. De l'Allemagne à l'Espagne, Xavi Alonso fera-t-il le grand saut la saison prochaine? On parle de plus en plus du technicien du Bayer Leverkusen pour diriger le Real Madrid. En cas de départ de Carlo Ancelotti, nous verrons s'il est le candidat idéal pour la Maison Blanche. Nous rendrons enfin hommage à l'une des grandes figures du football argentin des années 70-80, le fantasque gardien de but Hugo Gatti, décédé ce week-end. Notre ami Carlos Bianchi sera en direct de Buenos Aires pour évoquer celui que l'on surnommait El Loco, le fou. D'autres fous m'ont aidé à préparer cette émission, David Finzel et Pierre-Olivier Guérin. Maestro Salerno est quant à lui aux manettes, direction tout de suite l'Allemagne.
Les hommes de Vincent Kompany qui s'imposent tranquillement 4-0. Harry Kane, Konrad Leimer, Kingsley Coman, Joshua Kimmich.
Accroché une deuxième fois en deux journées, le Bayer Leverkusen avance au ralenti et cette équipe du Bayern donc en profite et prend désormais 8 points d'avance sur le Bayer Leverkusen qui laisse donc filer le Bayern en tête de cette Bundesliga.
Eh oui, 8 points, c'est désormais l'avance du Bayern Munich sur son dauphin, le Bayer Leverkusen. Ceci à 4 journées de la fin de la Bundesliga, un écart qui s'est donc accru ce week-end. Après la victoire 4-0 du Bayern à Heidenheim et le nul 1 partout du Bayer à Saint-Pauli. David Lortolari, qu'est-ce qui pourrait empêcher véritablement le Bayern Munich de reprendre le titre de champion au Bayer Leverkusen?
Tout le monde a convenu, c'est vrai, sur les plateaux ce week-end en Allemagne, que c'était un très grand pas et que si on était encore un peu éloigné du titre, parce qu'il y a quand même quelques adversaires encore à se farcir, parce que Leverkusen nous a habitués la saison dernière à des victoires très tardives dans les matchs. Ce week-end, avec ces 2 points en plus, avec cette victoire qui pèse, qui a impressionné, on peut débattre de la différence entre le Bayern et son adversaire du week-end, mais bon. Effectivement, il n'y a plus grand monde pour dire que le Bayern ne va pas récupérer son titre. En plus, l'appétit est revenu, évidemment, avec le titre cédé la saison dernière. Donc, il n'y a plus trop d'arguments, Eric, et je n'en ai pas non plus. On peut en chercher, hein, bien sûr, à la marge, mais il n'y a plus trop d'arguments pour dire que le Bayern ne sera pas champion cette année.
Bon, ben voilà, le débat est terminé. On passe au suivant. Ça serait le 34e titre de champion du Bayern Munich. Bon, ce qui interpelle, peut-être, c'est... Est-ce qu'on peut dire que c'est la réplique cette saison du Bayern Munich ou la faillite du Bayer Leverkusen qui a montré un visage totalement différent que celui qu'il avait affiché la saison dernière?
Oh, je vous trouve très très dur.
Je caricature toujours pour que vous arriviez à nuancer mes propos, mes chers amis.
C'est une stratégie.
Exactement.
C'est une passe décisive. Non, je trouve très dur parce que le Bayer Leverkusen a fait une vraie performance cette année. Le Bayer Leverkusen n'a perdu que 2 fois en championnat. Une fois contre Leipzig au mois d'août et une fois au mois de mars contre Brême. C'est une équipe qui a joué longtemps sur plusieurs tableaux, qui continue de pratiquer un jeu de qualité. Forcément, quand vous êtes maintenant attendu au tournant, les prestations sont peut-être un peu moins là. Il y a des renforts qui sont arrivés l'été dernier. Cornet, Bélossian, Alex Garcia, je parle de ceux qui coûtent le plus cher. Hein. Robin Cornet et Bélossian s'est blessé. Donc en gros, vous êtes finalement très peu renforcé. Je ne dis pas recruté, je dis renforcé. C'est une équipe qui continue de pratiquer du jeu. On sait très bien que l'entraîneur est sur le départ. On sait très bien que des garçons comme Wirtz notamment vont également s'en aller, que Grimaldo ne devrait pas rester non plus. Voilà, c'est une équipe qui continue Frimpong. De bien jouer. Frimpong également. Ils ont talonné le Bayern longtemps, jusqu'il y a encore 15 jours, 3 semaines. On ne peut pas dire qu'ils ont déçu, qu'ils ont montré un autre visage. Moi, je pense qu'avec Francfort, c'est une des équipes qui a réellement performé cette année en Bundesliga. Maintenant, il y a une réalité dans ce championnat et qui existe depuis malheureusement 10-15 ans. Le Bayern est trop au-dessus. Je ne dis pas très au-dessus, je dis trop au-dessus en effectif, en argent, en moyens, en politique, en stratégie. Peut-être que d'autres pratiquent une autre politique, comme Leipzig notamment, à plutôt faire du trading et à vendre et acheter. Dortmund s'inscrit aussi dans cette lignée-là. Ce n'est pas suffisant pour aller les concurrencer. Voilà, la Bundesliga finalement redevient ce qu'elle a été sur les 10 dernières années. On a vécu une belle parenthèse l'année dernière. Moi, à titre personnel, j'aurais aimé que ça change, comme ça a changé en Italie quand la Juve est tombée. C'est pas le cas, dont acte.
C'est vrai que le Bayer Leverkusen n'avait pas perdu un seul match en Bundesliga la saison dernière.
Et on a perdu deux cette année.
Impressionnant. Ouais. Le Bayern a bien réagi quand même cette saison, plus costaud que la saison passée, le Bayern Munich.
Oui, il y a toujours les petites interférences, je dirais, en défense. Et ça reste leur point faible, notamment la défense centrale. Mais c'est mieux que l'année dernière. Enfin, je veux dire, pour moi, De Ligt a été catastrophique. Ça a été un mauvais choix. C'est la grosse déception des anciens de l'Ajax, De Ligt. C'est mieux avec Upamecano et Kim.
Hein,
Non. Mais je parle de la défense en général. Pour le reste, ils sont toujours aussi conquérants. Je pense que l'équipe s'est plutôt pas mal stabilisée. On est dur avec Compagnie, alors que le Bayern fait une saison remarquable. Ils se font éliminer en Ligue des Champions, mais ils n'ont pas démérité. Et non. C'est le challenge qui leur est imposé chaque année de gagner sur tous les tableaux. Au moins, en Bundesliga, ils le font. Et ils le font avec un grand professionnalisme, avec un jeu très séduisant. On oublie de le dire, c'est très séduisant.
C'est plus séduisant que ce qu'on a vu sur les 3-4 dernières années. C'est pas non plus extraordinaire. Si on peut faire des comparaisons, on reste quand même...
Par rapport à l'année dernière, il y avait déjà...
Par rapport à il y a 3-4 ans, c'est mieux. Mais on est quand même en deçà de ce qu'on voyait sous Jupp Heynckes, qui pour moi reste le dernier grand entraîneur qui a bien fait jouer le Bayern Munich.
Mais
la vérité, c'est que ce Bayern-là a un avantage certain, c'est son effectif. On a tout à l'heure dans le lancement qu'on a entendu, il y avait le nom des buteurs. Bah oui, ils n'ont pas ces joueurs-là, les autres. Quand vous avez Harry Kane devant, déjà, vous savez que vous n'avez pas une autre équipe qui a un œuf comme ça. Bon, bah regardez les
ailiers
que vous avez.
À peu près un but par match, en moyenne. Un peu moins.
Si tu ajoutes à ça du Müller, qui même s'il est encore vieillissant, reste un joueur de qualité, du Musiala, que tu as du Olise, que tu as du Kimmich, que tu as du Goretzka, que tu as un tel et un tel, bah tu as un meilleur effectif. Moi, je reste quand même persuadé, en regardant au nombre de points les équipes qui suivent, on a une petite Bundesliga. On a retrouvé un bon Bayern, pas un grand Bayern, bon Bayern, mais on a encore une petite Bundesliga cette année.
On a Francfort qui est troisième à 20 points du Bayern Munich. Ah ouais. Juste avant de parler des autres peut-être, et notamment de Dortmund, peut-être l'interrogation cette saison côté Bayern Munich, c'était Vincent Kompany qui arrivait comme ça, jeune entraîneur, sacré défi, prendre en main le club bavarois. Bon, il a fait ses preuves, chapeau, non ?
Oui. Alors, il a pas changé de cap, c'est-à-dire jeu très haut, possession, façon Guardiola, un peu d'une certaine manière, avec des amendements évidemment. Il a imposé une autorité naturelle auprès des journalistes, auprès du public, auprès des dirigeants du Bayern, auprès desquels, visiblement, c'est ce qu'on nous dit chaque semaine, il fait l'unanimité. Et puis, auprès de ses joueurs, c'était important, mais ça paraît évident parce qu'il a été un grand défenseur de Manchester City, parce qu'il a été un international, parce qu'il a été un joueur de calibre élevé, mais encore fallait-il le confirmer comme entraîneur, parce que avec l'épisode anglais qu'il a connu avant, il y a eu une belle réussite, mais il y a eu aussi une descente en division inférieure. Donc il fallait retrouver
C'est d'autant plus admirable
son standing.
Ce qu'il fait, c'est que le Bayern, c'est très rare que le Bayern confie les clés de la maison à un mec qui n'est pas un grand entraîneur affirmé.
Absolument.
Et qui n'est pas un ancien de la maison. C'est-à-dire que si vous prenez sur les anciens entraîneurs sur les 15-20 dernières années, où c'est des types qui ont joué au club, ou alors des mecs comme Guardiola, comme Ancelotti, qui sont des références. Là, tu prends un mec qui n'a jamais joué au club, qui a tout approuvé en tant qu'entraîneur, dont, et David a bien fait de le rappeler, la dernière expérience en club, c'est pas hyper bien passé non plus. Donc là, déjà, il y a un effort qui a été fait de la part du Bayern. C'est payant, c'est un pari. Et ça aussi, ça met au crédit des dirigeants. Ils ne faisaient pas toujours ça. Ils ne le faisaient même jamais.
Le petit point noir, c'est qu'évidemment, on s'est focalisé sur la fameuse finale de Ligue des Champions qui va se dérouler à Munich. Ouais. Et je pense qu'on a beaucoup fantasmé là-dessus. Donc c'est un peu la figure imposée qu'on lui a mis sur le dos. Mais non.
Mais c'est pour une raison très précise. Pardon, shérif, c'est pour une raison très précise. C'est que la finale à la maison, finale d'Ahome, comme on dit en Bavière, Eric, c'est le traumatisme d'il y a une dizaine d'années, lorsque le Bayern avait échoué et finalement gagne la Ligue des Champions, je crois, deux ans plus tard.
Contre Chelsea.
2010-2013.
Contre Chelsea.
Et ça, il voulait enlever cette carie de leur dentition. Il voulait absolument oublier ça, mais ça n'a pas fonctionné.
Souvent,
quand on écrit l'histoire quelques mois avant, notamment dans cette compétition,
ça
fonctionne pas.
Et c'est pour ça qu'on a mis un peu, cette pression un peu démesurée sur ce Bayern et compagnie, alors qu'ils font une saison remarquable.
Ouais, le Bayern qui se dirige donc vers son.
Et Kane va gagner un premier titre.
Harry Kane. Effectivement.
Quand même.
Ils sont nombreux dans l'effectif. On n'a pas l'impression à ne pas avoir gagné de titre. Rafael Guerrero n'a pas gagné. Pas encore. Alexander Pavlovic, qui est un grand talent du milieu de terrain non plus. Konrad Leimer n'a pas encore gagné de titre. Palinia non plus. Michael Olise non plus. Ito, Min-jae Kim, tu parlais de la défense tout à l'heure. Sacha Boe, tous ces joueurs avaient aussi un appétit peut-être qui fait qu'à l'arrivée, ils sont devant aussi. C'est peut-être ça.
Et ils soulèveront sans doute le trophée de champion. Donc, le soir de la dernière journée sera le 17 mai. Hein, le Bayern Munich affrontera Hoffenheim, tandis que le Bayer Leverkusen jouera contre Mayence. Et ce jour-là, on saura également si le Borussia Dortmund arrive à décrocher l'une des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Les jaunes et noirs, qui il y a quelques semaines encore étaient plutôt largués au classement, et qui peuvent à nouveau y croire après avoir pris 10 points sur 12 possibles dernièrement. Dimanche, ils ont ainsi battu Mönchengladbach 3-2. Ils sont désormais 7e à 4 longueurs de Leipzig, qui détient avec le 4e rang le dernier ticket qualificatif pour la prochaine Ligue des Champions. C'est bien ça, David. Les 4 premiers vont directement en Ligue des Champions. Oui. Donc, ils se rapprochent. Bon, 4 journées de la fin. Même si bon, Niko Kovac, l'entraîneur de Dortmund, lui, va encore garder les pieds sur terre.
L'évolution de l'équipe est positive. On est plus stable, plus constant. Il y a eu cette lourde défaite à Barcelone, mais depuis, contre Munich, à domicile face à Barcelone, et face à cette solide équipe qui est Mönchengladbach, on a montré un bon visage. On progresse, mais rien n'est acquis. On ne veut pas se projeter trop loin. Le plus important, c'est Hoffenheim dans une semaine. Il faut gagner. Ensuite, on verra. Le message à l'équipe est clair. Il faut se concentrer sur nous. Ce que font les autres, ça n'est pas notre affaire. On l'a vu cette saison, on n'a pas su profiter des occasions. Donc, focus sur nous et nous ferons les comptes le 17 mai prochain.
David, le Borussia Dortmund, là, il est lancé à plein régime. Là, on sent, il s'est bien repris, non ?
Ouais, au bon moment, avec des bonnes surprises, alors qui ont été ponctuelles, notamment la Ligue des Champions. Il y a eu des choses pas trop mal quand même, hein, autour de Guirassy. Il y a eu des choses qui ont montré que cette équipe, mais on s'en doutait, mais qui avait un potentiel bien meilleur que ce que le classement laissait dire. Ce qui va beaucoup avantager Dortmund, c'est cette position du chasseur lui convient bien. De revenir sur les équipes qu'il précède. Et surtout, les autres devant lui, on peut les citer, ils ne sont pas si nombreux. Francfort, Leipzig, Fribourg, Mayence.
Ils ne sont pas si nombreux.
Oui, mais quand même. Moins qu'avant.
C'est-à-dire... Ils se tiennent en très peu de points.
Et surtout, ils se neutralisent. Il y a des nuls, il y a des défaites. Leipzig gagne un match sur deux. Et... Voilà, il y a des confrontations directes. Mayence, qui était la sensation, Eric, il y a quelques mois, a un petit peu baissé avec quelques blessures qui ont un petit peu plombé l'équipe. Francfort aussi perd des points. Et on peut imaginer. Leipzig, c'est le courant alternatif total, la déception.
Pour moi, c'est
et donc pour Dortmund, à condition, parce que ça n'a pas encore été le cas vraiment cette série, de réussir une 3, 4, 5 matchs consécutifs corrects avec des points, ils peuvent arriver dans les 5 premiers.
Il y a un Dortmund-Leverkusen à l'avant-dernière journée qui ne va pas être piqué des versus.
Ce redressement de Dortmund, c'est grâce à l'arrivée de Niko Kovac début février.
Oui, après, il y a eu un recrutement quand même de fait
cet hiver.
Ouais. Hein, ils ont quand même gagné en verticalité, en fraîcheur et en vitesse, qui reste l'arme absolue de cette équipe de Dortmund. Là aussi, je ne veux pas être trop dur avec Dortmund. C'est une équipe qui, depuis 4-5 ans, fait partir ses meilleurs joueurs tous les ans. Et tous les ans, on se dit, cette année, ça va être dur. Cette année, ça ne va pas marcher. Cette année, et ils sont en quart de finale. Qui s'étonne que Dortmund ne soit pas dans le dernier carré de la Ligue des Champions ? Absolument personne. Regardez le match retour qu'ils font contre le Barça, ça ne joue à pas grand-chose. C'est une équipe qui a pris une politique, qui a pris un virage. On a des joueurs, on les expose, on les vend. Et on prend de l'argent, et on recrute, et on recommence. Des équipes qui, avec cette politique, se stabilisent en haut du classement ad vitam aeternam, il n'y en a quasiment pas. Ce que fait Dortmund, c'est bien. Ils ont changé d'entraîneur, c'est au mois de janvier. Tiens, je vais regarder.
En janvier,
Nuri Sahin. C'est bien, il y a un effectif qui est mieux que ce qu'il était en première partie de saison. Guirassy, c'est un des meilleurs attaquants de Bundesliga. Moi, je reste quand même perplexe parce que le calendrier est dur. Il y a un Leverkusen Dortmund qui peut te faire perdre des points à la dernière journée.
Ils jouent à Hoffenheim, ils reçoivent Wolfsburg, ils vont au Bayern Leverkusen, donc ils reçoivent dernier match Kiel, qui est lanterne rouge.
Attention, parce que si c'est l'équipe de handball, ça peut être pas mal.
Là, je pense pas. Non, mais le problème, pas le droit de jouer avec les...
Non, mais même le foot. Même le
problème,
foot, c'est pas mal.
Le problème de cette équipe de Dortmund, c'est qu'elle a fait un très mauvais départ avec pas mal de défaites à domicile. Ça a surpris pas mal de monde. Ils ont, comme dit Naïm, ils vendent des joueurs. Mais les joueurs qui comptent, en fait, c'est les joueurs comme Madsen, par exemple.
C'est du trading.
Non, mais je suis d'accord avec toi.
Il n'y a plus de différence aujourd'hui entre Dortmund et Leipzig.
Non, mais je suis d'accord avec toi. J'ai cité l'exemple de Bellingham. Bellingham, quand on perd Bellingham. Et puis après, il y a les déceptions. Pour moi, il y a Julian Brandt qui fait
bien
une
en parler.
Voilà, il fait pas une bonne saison, alors que pour moi, je l'ai trouvé majestueux l'année dernière, notamment contre le PSG à l'aller ou retour. Donc, il y a ce rendement-là. Adeyemi a déçu, il a été
Kobel
blessé.
Kobel
aussi a beaucoup déçu. Avant, il était décisif.
Un des meilleurs gardiens du monde.
Et il est moins décisif. C'est pas qu'il est devenu mauvais, il est moins décisif. Cet ensemble, je pense que la virée Nourissahin, bon, moi, je trouve ça un peu dur, mais bon, Kovac, c'est arrivé.
Moi, je pense que c'est le nommé qui a été très dur.
Le
nommé.
Pourquoi ?
Je pense que c'était pas l'homme de la situation dès le début.
Bah, attends, l'année dernière, il joue
c'est
le titre jusqu'à
gentil,
la dernière journée. C'est possible. Mais on l'a pas aidé non plus avec le recrutement, avec les joueurs qui sont partis. Voilà, ils ont pris un mauvais départ. Ils ont juste eu un mauvais départ. Puis après, ils ont couru après le classement. Mais par contre, je suis pas non plus surpris qu'ils reviennent aux premières places.
Quand tu dis on l'a pas aidé, c'est à un moment donné, quand tu deviens l'entraîneur d'une équipe comme ça, tu sais à quoi tu t'exposes. Hein. C'est-à-dire, c'est quand tu es entraîneur du LOSC.
Tu vas pas refuser le poste non plus.
Non, mais quand t'es entraîneur du LOSC en France, tu sais qu'à chaque mercato d'hiver, tu fais partir un mec à 80 millions et c'était ton meilleur joueur et que tu dois recommencer. Ouais. C'est le principe de ces clubs-là. Ouais. Donc là, quand tu signes, tu sais à quoi tu t'exposes.
Ouais.
Donc voilà, après, on peut pas
tu
dire.
Tu refuses pas le poste
l'effectif.
Non plus.
Évidemment que tu refuses pas le poste, mais bon, tu te plains pas, tu connais le contexte.
Ouais.
Un mot de Serrou, Guirassy, qui revient bien là. Il a eu un petit creux quand même, mars-avril.
Là,
David, là, il a retrouvé le chemin du but. Là. Oui. En Bundesliga, en Ligue des Champions, c'est que c'est le meilleur buteur, mais en Bundesliga, il patine un peu.
Peut-être que ce sera le palier suivant de réussir une saison pleine, mais il dépend aussi des joueurs autour. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose auquel il faut que nos auditeurs soient sensibles, c'est des mésententes et des problèmes de hiérarchie. Il y a une hiérarchie très floue à Dortmund. On ne sait pas si Emre Can est le patron, on ne sait pas si Pascal Gross au milieu de terrain est le patron, on ne sait pas si Julian Brandt a les épaules pour être un cadre, je ne crois pas finalement, c'est un magnifique joueur.
J'ai cru.
Un cadre peut-être pas. Sabitzer n'a pas été content de son sort, c'est un joueur qui pèse, qui compte.
Saison mitigée.
Qui a mis aussi un peu le. Et donc Serhou Guirassy dépend aussi de la stabilité de ces joueurs-là qui sont censés être des cadres, qui sont des internationaux, qui sont censés stabiliser le jeu, la structure de l'équipe de Dortmund sur le terrain. Et Guirassy, évidemment. Naïm avait raison d'évoquer le recrutement cet hiver parce que Karnesh Chukwuemeka qui arrive de Chelsea a apporté de la verticalité, a apporté du punch, a apporté du talent, a apporté des ballons aussi à Guirassy. C'est l'un des éléments qui peuvent expliquer que ça va mieux pour Guirassy en cette fin de saison.
Une des raisons aussi pour lesquelles Dortmund s'est peut-être un peu noyé à un moment donné, c'est que moi, dans le jeu, je n'ai pas reconnu le Dortmund qu'on voyait l'année dernière. C'est-à-dire que c'est une équipe qui, depuis 3-4 ans, très rapide, très vertical,
il y avait pas de vitesse
très dans
année.
La transition. Ouais. Et là, cette année, ils ont un peu changé à vouloir tripoter la balle, jouer un peu comme les équipes à l'espagnol. Je ne crois pas que ce soit leur style, malheureusement.
Eh oui.
Le Borussia Dortmund finalise la dernière Ligue des Champions. Bah, ça serait quand même une surprise que s'il ratait la qualif pour la prochaine.
Oui, mais alors justement,
ce serait une perte pour tout le monde.
Ils se sont remis un peu en route au classement et les places de 5, 6, 7 sont totalement accessibles. Ils y sont actuellement.
Ça ferait tâche que pour le club, enfin, ce serait vraiment un vrai faux pas.
Parce que c'est quelques dizaines de millions d'euros en plus qui vont manquer. Bon, ça, c'est la problématique
même
financière.
Pour le spectacle de la Ligue des Champions. Tu veux voir Dortmund.
Voilà, c'est ça, on a besoin de Dortmund. Ouais, c'est, ouais.
Bon, la réponse, donc, le 17 mai, journée de clôture de cette Bundesliga. On va maintenant dresser un pont entre l'Allemagne et l'Espagne.
Alonso. And he does get his first goal for Real Madrid.
Up goes Ronaldo, and it's in! Xavi Alonso's got it.
It's going to be Xavi Alonso. Go.
Benzema, Alonso, doppelt, 2-2. Goal, Real Madrid.
Entre l'Allemagne et l'Espagne, mon cœur balance, pourrait dire Xavi Alonso, l'ancien milieu de terrain du Real Madrid, aujourd'hui entraîneur de Bayer Leverkusen, pourrait bien retourner à ses amours de jeunesse. Son nom revient en tout cas de plus en plus et avec insistance parmi ceux qui pourraient succéder à Carlo Ancelotti, si d'aventure le technicien italien évidemment, n'allait pas au bout de son contrat fixé jusqu'en 2026 hein, avec le Real Madrid. D'ailleurs, bon, petit tour de table, est-ce que Florentino Pérez, le président du Real, doit conserver Ancelotti la saison prochaine,
Naïm? Non.
Voilà. Shérif?
Dans la logique du club, non.
Voilà.
Même quand on gagne la Ligue des Champions, on peut sauter. Donc là, il n'y aura pas la Ligue des Champions et il n'y aura peut-être pas gagné la Liga.
J'allais dire qu'Eric, de toute manière, la jurisprudence réelle nous informe que Carlo, c'est un déclin actuel. Là, maintenant, dans ses cycles, il est en déclin. Donc il va y avoir quelqu'un d'autre.
Enfin, moi, je ne comprends même pas qu'il y ait un débat là-dessus.
Non, mais je voulais m'en assurer avant justement de passer à l'hypothèse.
Je pense que c'est déjà réglé, en fait.
Non, mais pas annoncé, puisque
ils n'ont pas posé
la question, conférence de presse.
Non, mais qu'il ne l'ait pas annoncé, c'est une chose. Mais que ce soit réglé en interne sur son départ, moi je crois que c'est déjà fait à mon avis.
C'est possible.
Après, on pourrait lui donner quelques mois de plus, ça coûte rien. Là, ils ne peuvent plus rien gagner cette année.
Non, mais ils peuvent encore aller jusqu'à la fin de la saison, je pense.
Oui,
même,
oui, oui.
Respect pour lui. Bon, bref, donc il va falloir trouver un successeur à ce bon Carlo Ancelotti, qui a quand même remporté depuis son retour au Real Madrid 11 trophées avec la Maison Blanche. Xabi Alonso, donc, qui a porté ce maillot immaculé entre 2009 et 2014. Il a marqué de son empreinte véritablement ce club qu'il connaît bien. Est-ce que c'est le candidat idéal, Shérif?
Depuis l'année dernière, oui, il était question déjà. Il a été maintenu à Leverkusen pour des bonnes raisons, c'est-à-dire qu'il voulait disputer la Ligue des Champions avec l'effectif avec lequel il a été champion. Ça a été très bien, comme pour Wirtz, qui lui aussi est resté. J'ai trouvé ça très classe. Maintenant, le truc, au niveau de tout l'aspect sportif, technico-tactique, moi, j'ai pas trop de doutes. Après, il est au Real Madrid. Au niveau de la politique de recrutement, on n'est pas maître du recrutement comme il a pu l'être à Leverkusen. Leverkusen, il peut choisir ses joueurs. Il a son mot à dire. Au Real Madrid, on n'a pas trop son mot à dire. Et on l'a vu d'ailleurs avec Ancelotti. On lui a imposé Mbappé. Alors, un exemple entre plusieurs. Donc, je pense que Xabi Alonso était déjà sur les tablettes du Real. Donc, ça peut en effet se faire, vu la jurisprudence réelle avec Ancelotti. Le truc, c'est que je pense que Xabi Alonso va quand même négocier pour avoir un certain droit de regard sur le recrutement. Ouais. Est-ce qu'on va lui accorder ou pas? Mystère.
Mais est-ce que c'est bien que ce soit un ancien de la maison qui vienne entraîner le club?
C'est toujours. Le Real aime bien prendre des anciens, des mecs qui sont déjà passés. Moi, pour moi, il coche toutes les cases parce que il connaît déjà les dirigeants, il connaît la politique de jeu. Quand Shérif dit quel droit de regard il aura, je pense qu'il le sait déjà, ça fera partie des négociations. Il est jeune, il est brillant, il est fort techniquement, fort tactiquement. On sait qu'avec lui, on sait que ce qu'il a fait depuis 2 ans à Leverkusen pourrait peser dans le cadre d'un recrutement de différents joueurs à droite à gauche. Donc, pour moi, c'est l'homme de la situation. En tout cas, c'est l'homme que j'aimerais voir en place.
Ouais. Voilà.
Encore faut-il que le Bayern Leverkusen soit d'accord pour le laisser partir. Hein. Apparemment, ça pourrait bien se faire. C'est ce qu'a déclaré hier le patron du Bayern, qui est un Espagnol. Tiens, Fernando Carro.
Nous avons un accord de caballeros que...
Nous avons un gentleman agreement avec Xavi. Si un club pour lequel il a déjà joué vient le chercher, alors on ne mettra pas d'obstacle. Il a joué au Bayern Munich, à Liverpool, au Real Madrid, à la Real Sociedad. Si l'un de ces clubs se manifeste, peut-être la Real Sociedad. Bon, je rigole, on en discutera. Mais la décision devrait être prise d'ici 3 à 4 semaines. On ne peut pas attendre la fin de la saison pour le savoir. Honnêtement, je préférerais que le Real Madrid gagne toutes les compétitions qui lui restent, car il n'y aurait alors aucune discussion. Voilà la situation. On peut spéculer beaucoup. Pour l'instant, il n'y a rien. Mais dans les prochaines semaines, avant la fin de la saison, on saura s'il y a un choc tectonique dans notre club.
Choc tectonique, c'est pas rien. Tremblement de terre, ça serait vraiment une grosse perte pour le Bayer Leverkusen, ce départ de Xabi Alonso.
Oui, parce que c'est le directeur sportif Simon Rolfes qui l'a fait venir, qui a beaucoup de réussite dans le recrutement récent. Effectivement, Shérif a raison de dire que Xabi Alonso a participé activement au recrutement. On pense notamment à un semi-échec, l'un des rares semi-échecs, Aleix Garcia, qui était arrivé en début de saison pour renforcer le milieu de terrain.
Ça n'a pas fonctionné.
Mais sinon, c'était une grande réussite. Et le Bayer Leverkusen, ça fait des mois, Eric, se thématiser dans la presse allemande, qu'ils savent qu'il va falloir à moitié repartir sur un projet, parce que départ de Xabi Alonso égale très vraisemblablement le départ de Florian Wirtz. Iront-ils tous les deux au même endroit? Ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, l'un partant, l'autre partira aussi. Donc ça veut dire qu'il faut quand même... Certes, il va y avoir de l'argent qui va rentrer, mais il va falloir renouveler le cœur du jeu.
Alors, on parlait des anciens du Real. Sur la shortlist, il y a aussi Raoul qui entraîne
La Castilla.
Le Castilla, qui entraîne le Castilla. Donc, pareil, c'est... Mais je pense que c'est un second choix par rapport à...
Ouais, puis il y a eu Jürgen Klopp aussi, dont le nom est évoqué.
Est-ce qu'il reviendra
ancien de la Bundesliga?
Il est chez Red Bull, Jürgen Klopp.
Oui, ce serait surprenant qu'il change encore de route tout de suite.
Il va faire le recrutement du PFC l'année prochaine.
Alors, une question quand même. Est-ce que Xavi Alonso serait l'entraîneur qu'il faut pour le Real, au vu de ce qu'on voit, des problèmes rencontrés cette saison par le club madrilène? On parle beaucoup de cette équipe qui n'est pas collective.
Le problème...
Là, on est à cheval sur deux problèmes. C'est-à-dire que Xabi Alonso, pour moi, il coche les cases. Après, est-ce qu'il va réussir? Il y a beaucoup de super entraîneurs qui n'ont pas réussi au Real.
Qu'est-ce qui leur arrive, Naïm?
Comment?
Qu'est-ce qui leur arrive aux entraîneurs qui ne réussissent pas au Real?
Ils peuvent réussir ailleurs, ce n'est pas la question. Oui. Le problème, c'est si les gens comptent sur Xabi Alonso pour transformer Tchouaméni, pour transformer Ceballos, pour essayer de calmer, je pense, à mon avis, les ressentiments et les aigreurs que peut, surtout Vinicius, que peut ressentir Vinicius. Si on pense transformer des Lucas Vázquez ou des Asensio ou des Fran García en immense joueurs, non. C'est un super coach. Mais après, il y a une deuxième réalité, Chérif l'a évoqué tout à l'heure, c'est le niveau des joueurs. Le Real a besoin de recruter, a besoin de refaire une base. Ça me paraît évident.
La défense.
Ouais, pas uniquement, même au milieu de terrain.
Ouais,
même
mais déjà,
de terrain.
C'est le premier chantier.
Et donc voilà, Xabi Alonso, évidemment, on a besoin de lui au Real Madrid parce que c'est un super entraîneur, mais il faut qu'il vienne avec des joueurs.
Mais il a suffisamment de poigne et de charisme pour gérer les stars. Quand même,
mais c'est
naturel c'est... chez lui quand même.
Oui.
Autorité.
Quand vous dites gérer les stars, vous dites gérer Mbappé, quoi.
Non, Vinicius aussi.
C'est la cage aux fauves. Je suis d'accord.
Qui? Qui?
Bah, non, mais c'est, égos,
c'est tout le monde.
Oui, mais c'est
tout
plus, c'est plus l'époque des Cristiano Ronaldo, des Benzema, des Bale et compagnie. Des égos aujourd'hui, pour moi, c'est plus de l'antagonisme qui pourrait exister entre certains joueurs par rapport à des niveaux de performance. Mais aujourd'hui, Xabi Alonso a quand même une légitimité, une crédibilité en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Et attends, il est champion du monde, Xabi Alonso, quand même. Tu vois, s'il arrive, c'est comme Zidane. Ouais. C'est un mec. Donc quand il arrive, il t'en impose. Ça.
L'une des limites, et là on revient jurisprudence Real Madrid, esprit maison, c'est on laisse très peu de chance, très peu de temps aux entraîneurs. Il y a pas au Real Madrid, il y a pas de saison de transition. C'est minimum, c'est la Liga, parce qu'il faut rester maître chez soi. C'est la règle numéro un dans le foot espagnol. On doit être champion d'Espagne d'abord. La Ligue des Champions en plus, qui est la compétition du Real. Donc Xabi Alonso coche toutes les cases. On est tous les trois tous d'accord autour de cette table. Mais il n'y aura pas un projet sur 2-3 ans. C'est déjà un an avec
le projet sur 2-3 ans, il concerne aussi les joueurs.
Si tu continues
à aligner des milieux de terrain comme Avinga, Tchouaméni, Ceballos, tu ne gagneras rien, même avec Gérard Majac sur le banc.
Je suis d'accord.
Mais ça veut dire qu'un ancien magicien, reconnu à la télévision,
un
dans votre jeunesse.
Un an sans titre au Real, tu ne passes pas la rampe. C'est tout.
En tout cas, le Real Madrid avec Carlo Ancelotti jouera demain à Getafe son match de la 33e journée. Et puis on sait que samedi, il y aura une finale de la Coupe du Roi.
Un
classico qui vaudra évidemment le détour. Allez, on va parler de l'OM dans quelques instants. Mais avant cela, une petite respiration musicale avec la jolie balade de Fatoumata Diawara.
Nambale malo, au Canada nan sinjin lo, uya dan nan teril lo, au Canada nan fadino. Oh,
Tara Fatoumata Diawara, joli choix de Maestro Salerno.
Rome en a vu de belles. Sous son ciel, Léonard de Vinci, Michel-Ange,
Monsieur Adrien Rabiot,
Benacer,
et Raphaël se trouvent réunis quelques mois.
L'OM qui part comme ça, guillemets, stage commando ou stage de cohésion, on l'appellera comme on veut.
L'idée, c'est aussi de fuir le climat toxique de la commanderie. Déclaration de Mehdi Benatia dans la Provence en fin de semaine dernière.
Et là, pour le coup, ils partent en Italie à Rome.
L'OM reprend sa deuxième place. Large victoire face à Montpellier 5-1.
La retraite romaine de l'OM. L'équipe phocéenne veut en effet changer d'air durant deux semaines. Elle part aujourd'hui direction l'Italie et sa capitale. Non pas pour aller rendre hommage au pape François disparu hier, mais pour préparer au mieux la fin de saison. L'Olympique de Marseille, actuellement deuxième du championnat, qui veut absolument décrocher sa place en Ligue des Champions. Et c'est loin d'être gagné puisque la formation phocéenne alterne le meilleur et le pire ces derniers temps. Et puis que, parce que derrière, ça pousse avec cinq équipes qui peuvent encore la dépasser au classement. Écoutez les explications sur cette initiative un peu moins originale de l'entraîneur italien de l'Olympique de Marseille, Roberto De Servi.
Avec le club, nous avons pensé qu'il fallait tout faire pour atteindre notre objectif. Ce n'est pas une punition. J'essaye juste de faire en sorte qu'on se retrouve. On sait ce qu'on a à faire sur le terrain. La situation peut s'améliorer à 4 journées de la fin. Mais la chose la plus importante sur laquelle on peut travailler, c'est l'état d'esprit, l'union qui peuvent nous aider dans notre mission. Quand il a fallu, l'équipe a toujours su réagir et répondre présent. Mais avec la direction, on a pensé que le fait de passer quelques semaines ensemble pouvait nous aider à mieux comprendre ce que l'on voulait faire.
L'OM qui part donc aujourd'hui à Rome et qui va faire des allers-retours avec les matchs qui seront intercalés contre Brest, après contre Lille. Au total, il y aura une mise au vert de 2 semaines et encore au minimum, puisque les dirigeants phocéens vont faire un point après le match contre Lille et puis ils pourraient prolonger cette aventure. Messieurs, est-ce que vous avez déjà vu en pleine saison comme ça une mise au vert aussi longue pour un club français ?
Non, c'est de pas mémoire, habituel. Non, c'est pas habituel. Même à Marseille, qui nous a quand même habitués à faire des trucs un peu bizarres, jamais vu ça. Mais
Non, pas à ce niveau-là. Tu as raison, Naïm. Giroud était très 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 fan avant des matchs importants, matchs
en Italie.
D'Europe.
Non, mais
c'est ça en plus.
Votre question, c'est en France ou en général ?
Pour un club français.
Sauf que j'insiste, Giroud faisait des mises au vert prolongées avant les matchs de Coupe de France et matchs de Coupe d'Europe.
Mais
c'était pas des semaines.
C'était de 3 jours.
Oui, 3 jours.
Giroud, il partait pas en Italie parce que ça coûtait un peu de pognon à l'époque.
Non, mais je suis d'accord. Mais à ma connaissance.
Est-ce que c'est une bonne idée selon vous là ?
Alors, Ce qu'on a,
enfin, vacances de 2-3 semaines,
les quelques souvenirs que j'ai sur des mises au vert plus courtes, donc 2-3 jours, deux ou trois jours, c'est ça dépend vraiment des personnalités des joueurs. Ça dépend de leur dynamique familiale, ça dépend de leurs priorités personnelles. Certains vont être hyper moroses s'ils n'ont pas leurs proches avec eux pendant 24 heures. D'autres, au contraire, ça leur permet de se focaliser davantage. Donc de mon point de vue, il y a une part de risque parce que chaque individu est différent vis-à-vis de ça, réagit différemment. Après, est-ce que ça peut créer un esprit de corps au bon moment ? Peut-être, mais le résultat n'est pas à gagner à l'avance.
Créer un esprit de corps à un mois de la fin de saison, je pense que ça, c'était quelque chose qu'il fallait faire avant les 4 ou 5 défaites consécutives, voire plus en amont au milieu de la saison. Ça partit un mois en Italie
rappelle-toi, c'était quoi ? C'était 4-5 jours.
Ils sont partis un mois en Italie. Et puis
l'idée,
Chérif, c'est qu'ils partent en Italie, ils font un match, ils repartent en Italie, ouais, ils font un match, ils repartent en Italie. Ça n'a pas été fait cette année. Bon.
Non, j'y arrive.
Si l'équipe vivait bien, est-ce qu'ils le feraient ? Si l'équipe, parce qu'ils jouent la deuxième place, mais je veux dire, si vous jouiez la deuxième place avec 6 ou 7 points d'avance, la question ne se poserait même pas. C'est-à-dire que là, si De Zerbi, peut-être même Ravanelli, estime qu'il y a besoin de cloisonner l'équipe, c'est qu'on part du principe qu'il y a à Marseille, en tout cas dans l'environnement du club, quelque chose qui peut perturber les joueurs. Et pas d'un point de vue uniquement sportif.
Mais on a l'impression que depuis plusieurs semaines, effectivement, il faut trouver des trucs pour que cette équipe ne rate pas un match sur deux. Alors, on se rappelle, il y a quelques semaines, De Zerbi, après la défaite à Reims, je crois, il dit « je ne vous entraîne plus, vous débrouillez ». Il faut besoin de ces choses-là.
Ce qui, pour d'autres raisons, arrive très régulièrement à Marseille. Tudor, il l'a annoncé combien de temps avant la fin de la saison qu'il partait ? Voilà, et Sampaoli. Tu as régulièrement à Marseille des problèmes, que ce soit avec les joueurs, avec le directeur sportif, avec peu importe. Tous les ans à Marseille, ton entraîneur te fait un truc dans ce goût-là. C'est où je m'en vais, où je menace de m'en aller. Et à chaque fois, pour des raisons différentes, mais à chaque fois, c'est le cas.
Chérif, c'est un club ingérable, une équipe ingérable.
Ah oui, il y a une ambiance toxique. J'ai lu une interview récemment comme quoi le président, c'est-à-dire Pablo Longoria, disait que de toute façon, pour une décision, il a besoin de se référer à 4 supérieurs au-dessus de lui. Alors, ce n'est pas forcément McCourt, mais c'est le directeur sportif, le directeur... Enfin, bon, bref, le fameux organigramme...
C'est le directeur sportif au-dessus du président, ça en dit long, quand même.
Non, mais c'est le fameux organigramme de l'OM que nous, on ne connaît pas. Je veux dire, chacun donne son avis, a plus ou moins de pouvoir, c'est une pétaudière, ça change tout le temps. On va revenir sur De Zerbi. De Zerbi est italien. Il y a une tradition italienne, ce qu'on appelle ritirio, c'est-à-dire la retraite, la mise en... Ça a toujours existé et elles peuvent être très longues. Alors, ce n'est pas des semaines, je te l'accorde, Naïm, mais ça peut être très long. Ça remonte en gros aux années 60 avec Heleno Herrera. Une équipe, une famille. C'est-à-dire qu'il y a des mises au vert qui pouvaient durer plusieurs jours. Alors, pas des semaines, on est bien d'accord. Le problème de De Zerbi, c'est que De Zerbi, lui, vient de la culture italienne. Il a entraîné Sassuolo et il a été à Brighton, en Angleterre. Et c'est quoi le trait commun de ces deux équipes ? C'est la stabilité. La stabilité du groupe qui est responsabilisé, professionnalisé. Là, il arrive à Marseille. Alors, comme disait Naïm, ça aurait dû être fait avant, je suis entièrement d'accord avec toi. En fait, il constate que l'esprit de corps, l'esprit de groupe, un certain professionnalisme n'existe pas. Donc, on se sauve en effet d'un certain climat toxique de la commanderie et surtout recréer un esprit de groupe parce que la Ligue des Champions, comme pour Lyon d'ailleurs, c'est impératif. Donc voilà, c'est sa solution. Tu as bien fait de citer Ravanelli, je pense qu'il a dû l'appuyer.
Bon, on va voir si ça va produire des effets, cette retraite romaine, et ceci dès ce dimanche, avec ce match contre Brest. Après, il y aura un déplacement à Lille, ou un autre au Havre.
Sur le terrain, hein.
Et puis, ça se terminera avec la réception de Rennes lors de la dernière journée. Allez, maintenant, on part en Argentine.
Isua, Gatti, 2-0.
Bien, Gatti yendo hacia su izquierda, le pega débil Insua. Y Gatti quiere retener.
C'est le nom qu'il me donne et qui veut dire fou.
Le décès d'une légende du football argentin, Hugo Gatti, est décédé dimanche à Buenos Aires à l'âge de 80 ans. Hugo Gatti, surnommé Le Fou, El Loco, gardien de but des années 60, 70, 80, longévité incroyable. Hein. C'est lui qui détient le record de matchs joués en première division argentine. 765 matchs joués entre 1962 et 1988. Il avait alors 44 ans et parmi ces matchs, il en aura joué 417 sous le maillot de Boca Juniors, son dernier club. Il aura également avant porté le maillot de River, curieusement, le club rival. Hugo Gatti et son look incroyable, ses cheveux longs, cernés d'un bandeau. Voilà, enfin, c'était un personnage, shérif.
Oui, oui, l'Amérique du Sud a une grande tradition des gardiens un peu locaux, justement. Il n'était pas le seul. À la même époque, dans les années 70, il y avait un gardien du Pérou, Ramon Quiroga, pareil, un fou, qui sortait de sa surface.
C'est ça qu'il avait presque inventé aussi, sortir beaucoup, quoi.
Voilà, c'est ça. Mais Ramon Quiroga était pareil. On connaît Higuita, mais plus proche de chez nous. Et donc, c'est un excellent gardien. Il fait une saison, la seule saison de Maradona. À Boca Juniors, c'est la saison 80-81. Ils ont été champions d'ailleurs, ils ont gagné Metropolitano, il me semble qu'ils ont gagné.
Oui, 81 champions.
Voilà, c'est ça. Auparavant, Maradona avait humilié Gatti parce que c'était aussi une grande gueule. On oublie, c'était une grande gueule. Un peu à la chambre. Bon, il avait traité Maradona de gros, de petit gros et tout. Maradona s'est vengé, lui a mis un quadruplé.
Gatti l'avait traité de gordito, de petit
gordito,
gros.
Gordito, de petit gros et tout. Donc il s'est vengé. Alors, il y a les highlights, comme on dit, sur YouTube, vous pouvez les voir.
Oui,
les
bah, d'ailleurs, on a un petit extrait là.
Madiego, le pegó Maradona, gol! Lazo de Argentino Juniors, Maradona! Argentino Juniors, 5 Boca Juniors, 2.
À l'époque où Maradona jouait sous le maillot de Argentino Juniors, son premier club, la Cebollita.
J'ai une petite anecdote, c'était bon, un match de championnat, je ne sais plus lequel, hein, et il y avait, Gatti dans les buts, et il y avait un défenseur, son défenseur et tout. Il y avait une attaque des adversaires, et justement, le défenseur, en principe, il savait toujours que Gatti n'était pas très loin parce qu'il sortait beaucoup de sa surface. Et là, il se retourne et Gatti n'est pas là. Et en fait, il le voit, il est tout droit, contre le poteau, et il regarde le soleil. Et l'autre, il lui dit bah, « Oh, qu'est-ce que tu fous ?» Et puis, il lui dit « Tais-toi, je regarde le soleil se coucher. » Et il avait les yeux un peu plissés, alors qu'il y avait une attaque adverse. Hein, fallait vraiment qu'il se... Et en fait, il regardait le soleil, il y avait un magnifique coucher de soleil sur le stade.
Alors, on a la chance d'avoir avec nous le maestro Carlos Bianchi en direct de Buenos Aires. Buenas tardes.
Comment allez-vous?
Comment ça va, Buenos Aires?
Ça va, il fait très beau, un soleil extraordinaire, il fait 22, 23 degrés. Automne.
Et c'est l'automne.
Ça va, très bien.
Alors, Carlos, il était vraiment fou, Hugo Gatti?
Hugo, je jouais contre lui dans les années 70. Et lui, c'était un gardien qui arrivait à jouer. Il était deux fois champion des champions en Amérique. Il était une fois champion intercontinental. Et il était en sélection argentine. Et il était titulaire de la sélection argentine et quand il arrivait à la finale de la Coupe du Monde en 78, l'entraîneur Menotti n'a pas cité. Il ne l'a pas amené à la sélection argentine, c'est pour ces raisons-là qu'il a joué Filiol. Mais lui, c'était un gardien qui, aujourd'hui, on dirait que les gardiens de but, ils jouent bien avec les pieds. À cette époque-là, il ne jouait pas très bien avec les pieds, mais lui, c'était quelqu'un qui savait jouer au football. Et alors, il osait faire des choses qu'aujourd'hui, on ne les voit pas parce que c'est pour ces raisons-là qu'on l'appelait le loco, le fou.
Ouais. Il était aussi très, très populaire. Enfin, il avait beaucoup de caractère et il parlait beaucoup, il faisait des blagues. Enfin, il a fini consultant également.
Oui, il était très aimé. Dans les buts, il chambrait toujours. Il prenait le ballon avec une main, il le passait à l'autre. Et il driblait les attaquants. Et il osait faire des choses qu'à l'époque, nous parlons des années 70, ça fait 55 ans en arrière. Et aujourd'hui, qu'un gardien drible un joueur, c'est quelque chose de normal. Mais à cette époque, lui, il osait faire des choses qu'on ne voyait pas. C'était un des plus grands gardiens qu'il a eu l'Argentine.
Voilà, on peut le classer. Effectivement, on parle de lui comme une légende du football argentin. C'est vraiment le cas.
Et vous savez pourquoi il est mort?
Il est mort parce qu'il
est sorti après dîner, promener son chien dans le quartier. Et il a tombé par terre, il s'est cassé la hanche. Mmh. Il était, il s'est fait opérer, il a pris un virus hospitalier et pendant 30 jours, il était malade et à la fin, il a fini pour mourir. Mais c'était un gardien comme on ne voit pas aujourd'hui.
Il était très aimé en Argentine ?
Oui, oui. En plus, il a joué à Boca Juniors. Vous savez, Boca, quand vous jouez à Boca Juniors, c'est la moitié plus un des supporters du pays qui sont. Alors, lui, il avait été champion avec Boca et d'Amérique et du monde.
Oui, oui, il avait gagné 2 Copa Libertadores en 77 et 78 et donc la Coupe Intercontinentale cette même année-là. Vous avez un souvenir de match contre lui?
Oui, je jouais contre lui, je l'ai marqué des buts aussi, oui, je jouais. Mais lui, c'était quelqu'un qui, quand on s'est présenté devant lui, il restait, il ne bougeait pas et à la fin, vous ne savez pas quoi faire. C'était quelqu'un de très comme gardien de but. Et aujourd'hui, ça ne se voit pas des gardiens comme celui-là parce que lui, il prenait le football à la rigolade presque.
David Lortolari.
Carlos, est-ce que les très grands gardiens ne sont pas des personnalités comme ça vraiment hors normes? Je ne me souviens plus le gardien sud-américain qui a joué à Strasbourg aussi chez nous.
Chilavert,
merci. Ça me revient comme ça. Il ne faut pas avoir une personnalité complètement débordante pour être finalement un grand gardien, un grand de ce poste-là.
Mais bien sûr, quand vous regardez le gardien de la sélection argentine aujourd'hui.
Mais pareil, exact.
Martinez.
Dibou.
C'est pareil. Et Chilavert, je l'ai eu. Quand j'ai arrivé à Vélez comme entraîneur en 93, nous avons été 3 ans champion de l'Amérique et champion du monde, contre Milan AC en l'année 1914. L'entraîneur, c'était Capello. Et lui, Chilavert, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Il frappait les pénaltys, il frappait les coups francs.
Oui.
Il marquait des buts de coups francs, lui. Il a marqué plus de 50 buts de coups francs.
C'est vrai. Chéri Guémour.
Bonsoir, Carlos. Alors, juste une petite question. Si tu avais été sélectionneur de l'équipe d'Argentine en 78, qui tu aurais choisi? Le fou Hugo Gatti? Ou alors tu aurais maintenu Fillol? Moi, je pense que Fillol a été très bon à cette Coupe du Monde 78. Et ton avis?
Ah oui, lui, il était très bon. Oui, Fillol, il était très grand.
Alors, tu aurais choisi lequel? Non, toi.
Mais il est si renommé, Gatti. La question, c'est l'entraîneur Menotti, et il faut se dire, joueur, c'est lui qui l'avait plus confiance. Luque, il était l'avant-centre de la sélection argentine en 78.
Ouais.
Il n'était pas un grand buteur. Et moi, cette année-là, en 78, je marquais 37 buts au championnat de France. Et Menotti ne m'a pas cité. Vous voyez, le football, c'est que l'entraîneur, c'est celui qui fait jouer, c'est lui qui a plus confiance. C'est tout.
Ouais. D'accord.
Merci beaucoup, Carlos Bianchi. On vous retrouve bientôt à Paris. Hein. Vous venez bientôt, non?
Oui, j'arrive mardi matin.
Ah, ben voilà, la semaine prochaine. Votre place, voilà, vous viendrez en sifflotant, évidemment. Hein. On vous connaît.
Et bien sûr.
Et voilà.
Avec plaisir.
Muchísimas gracias, Carlitos. Portez-vous bien. Et puis, c'est le moment de se quitter, chers amis, en sifflotant. Merci beaucoup, Naïm.
Merci à vous.
David, merci à Maestro Salerno, David Finzel, Pierre-Olivier Guérin. Et voilà pour aujourd'hui. Nouvel épisode. Demain, on sera là. Voilà, portez-vous bien d'ici là. À très bientôt.